때문에
Apocalypse ce matin. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Amen. Je vous assois. Vendredi soir, je vous parlais au sujet de faire la volonté de Dieu et d'honorer Dieu. On peut faire la volonté de Dieu sans honorer Dieu. Et Jésus dit que seuls ceux qui font la volonté de Dieu et qui honorent Dieu sont exaucés. C'est une clé, c'est une clé. Ce matin, je voudrais aborder un sujet qui n'est pas très populaire, mais tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Je pense que c'est nécessaire, il faut aborder ça, parce que on ne peut pas rester tout le temps sur le même niveau, sous prétexte qu'il y a des gens qui ne veulent pas monter. Il faut aller plus haut, même s'il y en a qui tirent vers le bas. Avant-hier, mon épouse et moi, on était dans la voiture, on écoutait les infos à la radio, et on a entendu le président Nicolas Sarkozy parler de peur. Je pense que vous avez entendu ce discours. Les gens ont peur, et c'est vrai qu'on est dans une crise mondiale et que ça fait peur. On entend des choses, on voit des choses. Et pour nous qui nous disciplinons à vivre selon les enseignements de Jésus, qui est notre maître, eh bien, nous savons que cette crise, c'est un passage obligé vers le nouveau monde. Dans très peu de temps, nous savons que l'épouse de Christ sera enlevée. Dans Apocalypse 12, il n'est pas dit l'épouse de Christ, mais il est dit un fils mâle, ou dans d'autres versions un fils énergique sera enlevé, qui sort de l'Église. L'Église est en train d'accoucher, le dragon est là, prêt à dévorer l'enfant qui va sortir. Mais voilà, Jésus va l'enlever dans le ciel, et puis l'Antichrist va prendre le pouvoir mondial pendant 7 ans, et au bout de 7 ans, Jésus va revenir avec nous pour régner. Ça, c'est le programme. Mais en ce moment, le monde est dans la nuit. C'est la nuit. Le ciel et la terre, tout ça s'est ébranlé, et ça fait peur. Ça fait peur aux gens. Alors nous savons que ça ne va pas aller de mieux en mieux, ça ne sert à rien de prier pour que ça aille mieux, ça n'ira pas mieux. Alors qu'est-ce que c'est le message que Dieu donne à son Église aujourd'hui? Le Saint-Esprit conduit les siens à abandonner l'égoïsme. Vous savez, je voyage beaucoup, et partout où je vais, j'entends à peu près la même chose. Les bons pasteurs prêchent pour que les brebis puissent... croire de tout leur cœur que Dieu va arranger les choses pour elles, et les brebis aiment entendre que Dieu va pourvoir à leurs besoins, et que voilà, toutes ces choses, on leur prêche de ne pas craindre de perdre, que Dieu va faire de la tête et non la queue, que ils vont avoir l'abondance, etc. Et il va vous donner le meilleur, etc. On entend partout ça. Les pasteurs disent ça de tout leur cœur, enfin, du moins j'espère, en espérant que les brebis puissent trouver quelque chose de bon pour elles-mêmes. Presque tous les bouquins chrétiens, souvent je vais à la librairie chrétienne et j'achète des bouquins, presque tous les bouquins chrétiens qui sont édités donnent des recettes pour avoir la victoire, pour être délivré, pour avoir des bénédictions, pour avoir des satisfactions personnelles, pour avoir un épanouissement personnel. Mes frères et sœurs, j'ose espérer que tous ces messages qui sont donnés, enfin disons beaucoup sont vendus, proviennent de cœurs sincères, mais j'en doute quand même, j'en doute quand même. Qui prêche sur les valeurs divines du don de soi? Qui prêche sur la valeur divine du sacrifice? Qui enseigne qu'il faut se renier soi-même? Nous avons eu notre frère Alaman, dimanche passé, ici, avec son épouse, et ils ont fait don à la communauté de toute une série de prédications des vieux prédicateurs, des gens extraordinaires. On va voir ça et on va mettre ça sur notre site internet. Vous allez avoir. C'est un régal, des choses extraordinaires. C'était à une époque où on prêchait un évangile sérieux. Maintenant, on est devenu un petit peu, c'est un petit peu un truc, voilà, pour le consommateur, hein. Lors des cultes, je vois souvent les gens qui s'approchent à l'autel, mais pas pour s'y sacrifier, pas pour y mourir, pas pour y consacrer pas pour y sacrifier leur vie. Non, 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 non. Ils s'approchent de l'autel pour recevoir le pouvoir d'éviter la souffrance. Mais c'est bizarre. Un autel, c'est un endroit où il y a un sacrifice. On ne s'approche pas de l'autel pour éviter la souffrance. Quand Paul parlait d'aller à l'autel, AUTEL, hein, pas au Sofitel. Quand Paul parlait d'aller à l'autel, c'était pour y crucifier notre chair. Maintenez les membres de votre corps qui sont sur la terre dans la mort, etc. Notre moi, nos aspirations personnelles, mettre tout ça sur l'autel. Aujourd'hui, l'autel n'est plus l'autel du sacrifice, mais c'est un autel 3 étoiles, voire 5 étoiles. C'est un autel HO, circonflexe TEL. C'est un endroit de repos, un endroit tranquille, n'est-ce pas? On s'approche de l'autel pour recevoir, pas pour donner. On s'approche de l'autel. Dans la lettre à l'église de notre époque, dont on vient de lire un passage là, Jésus dit: achète un collyre pour oindre tes yeux afin de voir. On vient de lire. Mes frères et sœurs, on arrive à la fin du temps de l'église dans les nations. On arrive à la fin, quand c'est dit à la fin du temps des nations, ça veut dire à la fin du temps de l'église dans les nations. Il est temps pour ceux qui aiment Dieu d'apprécier Dieu dans une optique nouvelle, pas une optique courante comme aujourd'hui on voit un peu partout. Il faut que les chrétiens adoptent une vision qui est centrée sur Dieu, sur la personne de Jésus-Christ. Parce que tant que vous n'avez pas votre vision centrée sur Dieu, vous ne pouvez pas avoir le point de vue de Dieu sur les choses qui vous arrivent ou les choses qui arrivent dans ce monde. On a un petit chant chez nous qui dit penser, agir, parler comme Jésus, penser comme Dieu, parler. Mais on ne fait pas ça quand on regarde à Dieu simplement comme celui qui pourvoit nos besoins, à nos besoins humains. Et qui nous... On ne fait pas ça quand on regarde Dieu comme ça. Parce que, enfin, c'est quoi notre histoire? C'est quoi l'histoire de l'univers? C'est quoi l'histoire de l'humanité? Quelle est la destinée de l'humanité? Quelle responsabilité est-ce que j'ai là-dedans? Mes frères, mes sœurs, il faut arrêter de venir à Dieu pour recevoir la paix, le bonheur, être béni, être guéri, être sauvé. C'est important. Mais maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, il faut monter d'un degré, il faut être un peu plus responsable, avoir la vision de Dieu. Ce qui est important pour les vierges folles et pour les vierges sages, c'est de se réveiller, mais de se réveiller pour quoi faire? Ah, pour aller à la rencontre de Jésus. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se réveille, on doit ajuster notre vie au but en vue duquel elle a été créée. Quelle est donc la volonté suprême de Dieu? Il voulait quoi en créant le monde? Qu'est-ce qu'il pensait avant la création du monde? Qu'est-ce qu'il voulait? C'est quoi votre destinée? C'est servir Dieu pour vous sentir bien, pour avoir une satisfaction, pour être heureux? Mais c'est minable! Parce que c'est égoïste! Mon frère, ma sœur, Dieu se cherche un homme, Dieu se cherche une femme qui lui donne ce qu'il veut, lui! Vous savez, avant la fondation du monde, Dieu a fait un plan. Il a fait un plan. Et si vous êtes en train de dormir spirituellement, les vierges folles et les vierges sages dorment, si vous êtes en train de dormir spirituellement, vous ne voyez pas ce plan. Et vous n'êtes que dans un rêve ou un cauchemar. Votre salut, voilà ce que vous voyez. Votre guérison que vous recherchez, votre abondance financière après laquelle vous courez. On entendait l'autre jour à la radio, c'était Claude François qui chante. Mais qui me dira après quoi je cours? Je dis, mais après le pognon, mon vieux. Mais après quoi je cours? Je voudrais trouver quelqu'un qui me dit après quoi je cours. Mais après le pognon. Tout le monde court après. Alors maintenant, on court spirituellement après l'argent. On prêche cela. Mais après le bien-être de notre famille, etc. Mais Dieu là-dedans. Savez-vous ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ? Ce que la Bible dit que vous êtes devenu en Jésus-Christ? Vous êtes devenu sagesse d'Élohim. Si vous lisez 1 Corinthiens 1:30, il faut lire plusieurs versions. Christ est notre sagesse, est-il dit dans certaines versions, les plus courantes en français. Et en Christ, nous sommes sagesse de Dieu. Chouraki traduit, il dit, par lui, vous êtes dans le Messie Yeshua devenu sagesse d'Élohim. Vous êtes devenu sagesse d'Élohim. Sagesse. Je crois que notre sœur Michel sait comment ça se dit en grec. Sagesse. Puisqu'elle a appelé sa fille Sophie. Ça se dit Sophia. Sophie. Aimer la sagesse, c'est philo. Et Sophie. Philosophie. Philosophie. Amour, Sophie, sagesse. La philosophie. Il y a une philosophie de Christ. C'est quoi? Premièrement, c'est le rachat par Jésus, c'est la justification par Jésus, c'est la justice par Jésus, c'est la pureté par Jésus. Mais ce rachat est possible et est profitable à qui? À Jésus, avant de vous être profitable à vous, c'est profitable à Jésus en premier. Cette justification accomplie par Jésus, elle est profitable à Jésus, ne perdez pas ça de vue. De même que ça, la justice, elle est profitable à Jésus, parce que c'est pour lui-même qu'il a fait tout ça. C'est pour lui, c'est pas pour vous. Oh, comment ça? Oui, bien sûr que c'est aussi pour nous. Mais premièrement, c'est pour lui qu'il a fait ça. Alors, tout est résolu en Christ, tout est accompli en Christ. Et étant en Christ, nous avons tout pleinement. Et si vous aimez sa sagesse, cette philosophie divine-là, si vous l'aimez, la philosophie divine, c'est quoi? La philosophie divine, c'est l'amour de la sagesse divine qui concerne donc cette connaissance des principes qui rendent juste tout ce qui est en train de se passer, dans le plus petit jusque dans le plus grand, dans tous les détails. Alors, c'est ça la philosophie divine. Si vous aimez la sagesse de Dieu, c'est ça que vous aimez. C'est que toutes ces choses-là, elles sont faites par Dieu, pour Dieu, pour lui seul. Alors, bon, il y a la philosophie humaine, il y a la philosophie divine. La philosophie divine, elle nous est donnée en Christ, c'est-à-dire quand on est en lui, quand on est disciple, quand on marche selon ses ordres, ses ordonnances. Et les religions tournent toujours autour de l'homme, autour de son bien-être. Elles propagent une philosophie humaine. Religieuse, certes, mais humaine. On parle de Dieu dedans, mais c'est pas la philosophie de Dieu. Tout est centré sur eux. Tout est centré sur les gens. Tout est centré sur les bénédictions personnelles dans les religions. C'est ce qu'on trouve dans les religions. Et ça, c'est, leur centre est faux. Et comme leur centre est faux, ben tout est faux. Parce que le centre, c'est pas l'homme, le centre, c'est Jésus. Dieu ne veut pas que les siens continuent dans cette erreur. Il veut que son peuple mûrisse, atteigne la sagesse, atteigne cette maturité, atteigne cette stature parfaite de Christ. Il nous a destinés à comprendre les principes divins qui régissent tout vers le déroulement de ce qu'il veut, lui. Dans le psaume 25, au verset 9, il est dit « Dieu conduit les humbles dans sa justice, il enseigne aux humbles sa voie. » Bon, mais quand on écoute les prières, il faut admettre une chose quand même, c'est que les chrétiens veulent trouver des solutions à leurs problèmes, ils veulent trouver un sens à leur vie. Quand il est écrit que les vierges sages et les vierges folles dorment, ça signifie qu'elles sont confortablement installées sur l'autel. Elles ne se demandent pas « Mais pourquoi je suis là ? » Qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? À quelle loi obéissent les pions sur l'échiquier de l'univers? Je suis un pion, il faut le dire. À quoi obéissent ces pions sur l'échiquier de l'univers? On ne se pose pas trop la question, on dort. En vérité, cette sorte de personne n'aime pas la sagesse divine. Ils dorment. Et quand quelqu'un dort, il n'a pas le sens d'une destinée. Quand quelqu'un dort, il n'a pas le sentiment de quelque chose à réaliser quand il dort. Mes frères et sœurs, il faut que nous, au moins, vous du sanctuaire, vous qui écoutez là sur Internet ou la télévision, il faut que vous soyez, il faut vous réveiller. Dieu veut quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle est son intention suprême? Il faut se réveiller pour en prendre conscience. Sinon, on est toujours basé sur mon salut, ma guérison, mon abondance, mon ceci, ma cela, ma famille, mon machin, mon travail, ma prospérité, mes difficultés. Les philosophies humaines, elles conduisent pas bien loin. Par contre, notre amour de la sagesse, notre philosophie divine, elle se développe à partir du centre, c'est-à-dire à partir de Jésus, pas à partir de nous, à partir de Jésus. Parce que, en vérité, ce n'est pas pour vous que l'univers a été créé, ce n'est pas pour vous que la terre a été créée, ce n'est pas pour vous que vous avez été créé, c'est pour Dieu, et un point, c'est tout. On va lire Romains 11, 36. Prenez vos Bibles aussi. Romains 11, 36. C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, 36. Un verset terrible. Ah, sur le lit, voilà, vite fait, ça va. Toutes ces choses, même le culte de ce matin, ça a été créé pour lui, pas pour nous, pas pour vous, pas pour votre bien-être, pas pour que vous appreniez quelque chose, pas pour que vous vous sentiez conforté, pas pour confirmer ce que vous avez pensé ce matin, rien du tout. C'est pour lui. Ça donne un autre point de vue. Ça donne le point de vue de Dieu. C'est à partir de ce point-là que Dieu nous exhorte à tout voir, à voir toute chose. Or, dans le monde, et dans le monde chrétien aussi malheureusement, on a cette fâcheuse tendance à tout ramener à soi, à tout interpréter par rapport à soi, en cherchant quel serait le moyen d'en tirer quelque chose, comment on peut se sortir de telle et telle chose pour pouvoir atteindre tel et tel point. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour moi, pour mon profit spirituel, certes, mais c'est quand même pour mon profit personnel, mon salut personnel, ma victoire personnelle, mon espérance personnelle. N'est-ce pas? Alors, Dieu veut que nous sachions, il veut que nous ayons les réponses, mais c'est très difficile pour lui parce qu'il n'y a même pas les questions qui montent. Vous savez, quand vous avez un enfant qui ne vous demande pas pourquoi, oh, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, un enfant qui ne demande pas pourquoi les vaches elles ont des cornes et les chevaux elles en ont pas? La réponse est, c'est étudier pour. Mais un enfant qui ne pose pas de questions, c'est très inquiétant. Et Dieu nous voit là, on ne se pose pas des questions, les bonnes, les vraies. C'est par rapport à soi toujours. Alors, il a quand même placé ce désir de savoir en nous. Ce désir s'appelle l'amour de la sagesse. Mais attention, notre amour, il doit se porter sur l'amour de la sagesse divine, sur la philosophie divine. Dieu veut nous révéler la sagesse suprême, parce qu'il va vous arriver demain. Jésus est venu pour rectifier nos voies ce matin, parce qu'il veut que nous sachions quel est son plan, quel est son but, ce qu'il veut pour lui-même. Quand on se regarde le nombril, qu'on ramène tout à soi, qu'on est égoïste, même spirituellement égoïste, « Seigneur, donne-moi le don de guérison, Seigneur, donne-moi. » On finit par trouver des incohérences dans notre vie et dans l'histoire du monde. On dit, mais c'est pas possible, mais s'il y avait un Dieu, comment c'est possible? D'ailleurs, les gens pensent comme ça, hein, et les chrétiens commencent à se poser des questions aussi, hein, mais c'est terrible, c'est épouvantable. Alors, on n'ose pas poser des questions. Par contre, quand on a le point de vue de Dieu, on constate qu'au-delà de toutes ces contradictions de surface, il existe un agencement de l'univers dans cet agencement-là. Une cohérence qui unit tout dans un but, un tout qui est absolument parfait. Et c'est seulement quand on a ce point de vue-là qu'on en arrive à ne plus s'inquiéter. Bon, je suis né de nouveau, vous le savez, et c'était dans un milieu qui prétend prêcher le plein évangile. J'en suis sorti parce qu'il mettait en avant que des aspects de la vérité. Que certains aspects de la vérité. En fait, leur phrase, leitmotiv, c'est cette chose qui revient toujours, c'est Jésus, nous prêchons le plein évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. On sait bien. Mais si on fait une fixette sur ces quatre points, on ignore le grand tout dont ils font partie. Un exemple. À nous du sanctuary, à nous au sanctuary, Dieu nous a donné la sagesse. L'amour de la sagesse au sujet de 1 Corinthiens 15, 29. Bon, c'est une bonne chose, mais si on met de l'importance, une importance démesurée là-dessus, eh bien, ça sera au détriment de tout l'ensemble dont cette chose-là a été tirée. Elle est dedans, mais il y a un ensemble. Aimer la sagesse est primordial pour avoir le point de vue de Dieu, pas simplement sur une chose ou sur une autre. Sur 4 ou 5. Mes frères et sœurs, il faut élever notre cœur, il faut élever notre intelligence pour arriver à avoir le point de vue de Dieu. Tout ce qui arrive fait peur au monde, même des chrétiens sont inquiets, quand on voit tout ça, mais quand on voit comme Dieu le voit, alors tous les détails prennent leur place dans le grand plan. Si la perspective éternelle vous échappe, eh bien la pensée de Dieu vous échappe. Si vous ne commencez pas à voir l'intention suprême de Dieu, ce qu'il a voulu dès avant la fondation du monde, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train d'arriver sur la terre maintenant. Et vous n'allez rien comprendre de ce qui va arriver, et ça va être terrible ce qui va arriver, et vous n'allez rien comprendre de ce qui va arriver à votre vie et à l'univers, vous n'allez rien comprendre. Parce que vous voyez une certaine réalité, la vôtre, mais vous ne voyez pas la réalité telle que Dieu la voit. Et vous serez des espèces de vierges folles dingues qui se bercent d'illusions et puis qui s'affolent tout d'un coup parce que vous êtes resté bloqué dans le partiel au lieu de voir comme Dieu voit les choses. Dieu a pourvu en cette fin des temps, et nous savons que c'est l'être à tête d'aigle qui aujourd'hui influence, règne, sur l'Église de Jésus-Christ. Mais qui influence-t-il? Ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église, pas les autres. Les autres ne savent même pas qu'il y a un être vivant qui vient du trône de Dieu et qui a une tête d'aigle et qu'il s'occupe de notre époque en particulier. Ils ne savent pas. Demandez-leur, ils ne savent pas. Mon nouveau livre, qui s'appelle donc Paroles cachées, va sortir cette semaine, enfin la semaine qui vient là. C'est un livre de 400 pages de commentaires du livre de Enoch. Enoch, le septième depuis Adam. Enoch a écrit ce livre il y a 5300 ans. C'est plus vieux que la Genèse. La Genèse, ça date de 1750 ans avant Jésus-Christ. Enoch a tout vu. Toute l'histoire du monde, il l'a vu écrite sur des tablettes dans le ciel. Quand vous lisez son livre, vous lisez au sujet d'événements dont la plupart sont déjà du passé. Et puis vous allez tomber sur des passages, petit à petit, vous allez arriver sur des passages que Enoch a lus sur les tablettes du ciel qui concernent notre époque. Et puis vous allez arriver un peu plus loin au sujet de ce que Enoch a lu et qui concerne ce qui va arriver bientôt. Il l'a écrit dans son livre. Or, vous allez commencer la lecture au chapitre 1. J'espère. Et puis vous allez aller de page en page et vous allez glisser petit à petit vers le présent. Et puis vous allez glisser après vers notre futur. Mais vous savez, aux yeux de Dieu, tout ce qui est dans ce livre est une réalité, que ça soit le passé, que ça soit le présent, ou que ça soit l'avenir, c'est une réalité qu'il a mis dans un livre et qu'il tient dans sa main. Il tient toutes choses dans sa main. C'est des tablettes écrites. Et tout a été écrit. C'est comme ça que Dieu voit l'histoire de l'univers ce matin, aujourd'hui, de l'univers entier. Ta vie, avec ton passé, avec ton présent, avec ton futur, tout ça c'est présent pour lui. Ton hier, ton demain, tout ça c'est du présent pour Dieu. Il tient ça dans sa main. Et Dieu invite les vainqueurs à voir comme lui il voit. Les vainqueurs, vous savez, dans chaque âge de l'Église, ceux qui sont vainqueurs, ils hériteront de ceci, ils hériteront de cela. Toute l'histoire que nous vivons, personnellement, ou l'histoire de notre pays, l'histoire de l'univers, tout ça c'est dans sa main, c'est un livre écrit. Enoch l'a vu, et il a écrit, et c'est dans son livre à lui. Et le but de cette longue histoire, c'est quoi? La philosophie religieuse ne l'enseigne pas. Ceux qui aiment la sagesse divine, la philosophie divine, savent. Parce que celui qui cherche, il trouve. Savoir ça, ça donne du repos. Ça donne pas le sommeil des vierges folles et des vierges sages, ça donne le repos divin. Alors je vous invite à préparer vos cœurs à recevoir cette connaissance. Il faut préparer son cœur. Un paysan, il ne va pas semer sur n'importe quel terrain. Il prépare le terrain avant. Et nous, nous sommes appelés à préparer notre cœur. Ce matin, ce que je vous donne là, c'est juste pour que vous disiez, bon, je vais préparer mon cœur à recevoir tout ça, parce que c'est important. Donc, à vous mettre dans la prière. Peut-être certains dans le jeûne, je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Mais de préparer, de labourer, d'enlever certains trucs. De labourer votre cœur. Je vous invite à préparer votre cœur à recevoir cette connaissance, à avoir le courage de vous remettre en question, avoir le courage de remettre en question votre pensée religieuse, à être humble en présence de Dieu. Vendredi soir, vendredi prochain, je vous en dirai davantage. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je veux que vous soyez dans l'expectative, que vous arrêtiez de penser que Dieu a tout créé pour vous. Ce n'est pas vrai. Il a créé tout pour lui. Réfléchissez à ça. Pensez-y. Réécoutez le message de vendredi passé sur Internet. Écoutez encore celui-ci. Réécoutez-le. Imprégnez-vous de cette pensée. Regardez cette perspective-là et non pas simplement votre problème. Vous savez, il y avait une expérience qui avait été faite il y a quelques siècles en arrière et qu'on raconte. C'était un monsieur qui avait apporté en Europe un éléphant d'une façon tout à fait secrète et il l'avait placé dans une chambre tout à fait noire. Et il avait invité des gens à venir, non pas le voir, mais le découvrir. Alors comme c'était tout noir, il ne voyait rien, et il s'approchait. Il y en a un qui a touché la trompe, il a dit, « Ça, ce qu'il a dans cette chambre, c'est un grand tuyau. Tu me dis que c'est un éléphant, alors un éléphant, c'est comme un grand tuyau. » Parce qu'il a touché la trompe. L'autre, il a touché un pied. Il a dit, ah non, non, un éléphant, c'est comme une colonne. Et etc., etc., etc. Il n'y en a aucun qui avait la vision de ce que c'était globalement. Il faut que la lumière soit faite. Et ce matin, vous avez peut-être une religion trompe, ou une religion pied, ou une religion, je ne sais pas qu'est-ce que c'est votre pensée, mais il faut maintenant mettre la lumière, parce qu'il faut que vous voyez comme Dieu voit, parce qu'on arrive dans une époque, mes frères et sœurs, ça ne va pas être drôle, ça ne va pas être rigolo, et ceux qui ne sont pas prêts, eh bien, ils vont s'affoler. Ah, j'ai pas d'huile, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il me faut, il me faut quoi, je ne sais pas. Et ça sera trop tard, la porte sera fermée. C'est pourquoi je vous invite à préparer vos cœurs à recevoir cette connaissance de la part de Dieu. J'ai déjà enregistré le message pour vendredi parce que je ne serai pas là avec mon épouse, on ne sera pas là. Ce message est enregistré, je l'ai donné à Eric. Donc, de toute façon, il sera vendredi vers 22h sur Révélation Bible. Que Dieu vous bénisse. On se met debout et on remercie Dieu. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que je sais que tu es la vérité, la vie. Et je sais, Seigneur Jésus, que toutes ces choses qui existent ont été faites par toi, pour toi. Je sais, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y a rien qui t'échappe. Je sais que toutes ces choses sont écrites. Tu veux les révéler à ceux qui ont un cœur pur, un cœur humble, que tu veux les conduire, tu veux leur montrer la véritable perspective, que... Je sais, Seigneur, que tu ne fais rien sans avertir tes serviteurs, les prophètes. Je sais, Seigneur, que tu veux que nous soyons au clair, que nous ne marchions pas à tâtons. Et je te prie, mon Dieu, que tu nous donnes à chacun d'entre nous, tous ceux qui, du moins, écoutent ce message, de préparer nos cœurs à recevoir la vision que tu as au sujet de ce qui va arriver, afin que nous ne soyons pas comme des gens qui ne sont pas au courant. Tu as dit que les tiens ne seraient pas surpris. Eh bien, Seigneur Jésus, ils ne seront pas surpris parce qu'ils sauront, mais ils sauront parce qu'ils auront cherché. Il n'y a que ceux qui cherchent qui trouvent. Et je te remercie, Seigneur Jésus, de nous avoir élus pour cela. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Je te prie pour chacun et chacune dans le nom de Jésus. Amen.